c'était le lundi parce que, dans le monde nouveau, parce que le lundi c'est le jour de purification. C'est purgatoire. Des pans entiers de la nature humaine se trouvent dans la purée. Pour pas dire l'immense océan de la nature humaine se trouve plongé dans le purgatoire. Nous aussi, on est dans le purgatoire. Dans l'horizon, par exemple, on est dans le purgatoire. Il y a une purification. Et il n'y a plus de condamnation au purgatoire. Le péché n'existe plus au purgatoire. Dans l'horizon, il n'y a plus de... Le péché disparaît. Et sur la terre, pareil, dans le purgatoire, dans l'horizon, tout est pur, immaculé. L'innocence a repris tous ses droits. La nature reprend tous ses droits dans la transformation et l'élan de la grâce qui avance continuellement jusqu'à son accomplissement. Alors, c'était lundi, est un jour où la ligne se présente devant nous pure. Et en elle, tout s'est pur. Et le mal qui approche de nous a disparu de la terre. C'est beau, on a une semaine là qui va jusqu'à... Avec ces 6 chapitres, toujours pareil, 8, 9, 10, 11, 12, 2... de Saint Jean. Qui vont parcourir toute cette semaine jusqu'à dimanche. C'est merveilleux d'être avec l'Église de Jésus, dans la grâce de l'Immaculée Conception, et dans l'aboration de celui qui fait avancer avec une intrépidité, une puissance, une force invincible. Ah, c'est très fort. C'est très merveilleux. Et, dans cette... et puis avec... vous verrez, enfin il me semble, je crois, qu'il y a des, comme l'évangile d'aujourd'hui, l'heure est arrivée. C'est vrai. L'heure est arrivée pour la femme d'être tout à fait elle-même, parce qu'elle a reçu avec la plénitude de son don, comme elle poussait. L'heure est arrivée pour la Jérusalem nouvelle d'éclore, de faire éclater tous ces bourgeons. La virginité, la pureté. L'immaculation. Cette soif de pureté qu'il y a dans la nature humaine a quelque chose d'étourdissant. Cette soif d'innocence parfaite, divine, incarnée. Cette puissance qu'elle donne. C'est vrai qu'on voit ces vieux là. C'est pitoyable. C'est triste, c'est vrai. Il y a une exigence quand même de pureté. Hein. Et l'évangile a toujours été résumé par la Sainte Église en 3 mots. Si tu veux proclamer et brûler l'intérieur dans ton corps, ton âme et ton esprit de l'évangile, alors il y a la virginité, il y a l'humilité, la pauvreté, il y a la charité de l'obéissance. C'est les trois résumés, les 3 mots. Virginité totale, humilité substantielle, si je puis dire, charité, obéissance. D'amour. Voilà, le triple aussi, mais pour ça que les consacrés. Et le prêtre Saint-Jean, par exemple, c'est l'icône même du parfum qui s'exhale dans l'unité des 3, en sa perfection, dans son intime, dans la chair, dans le visage, et dans le mouvement divin en lui. Le pape, fait une encyclique pour les jeunes, pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Il fait une belle encyclique, là. Pour la jeunesse, magnifique. Hein. Magnifique, l'élan, la pureté. Le changement total de la vie de la Terre. C'est vous qui êtes en train de le faire. Regardez comment ça s'est fait avec ces jeunes, là. Il y en a eu quand même avant vous. Maintenant, c'est vous. La pucelle de Jeanne d'Arc, Jeanne, la pucelle. L'innocence de l'enfance de Thérèse, c'est le français. Voilà, deux exemples qui donnent, voilà. Voilà, ça c'est votre jeunesse à vous. La pureté, c'est vrai, l'innocence et la virginité et la pureté. À chaque fois qu'il voit une femme, ben Jésus. Et Jean est très ébloui aussi pour ça, dans cet évangile de Jean, hein, on dit à chaque fois. Et il a écrit l'Apocalypse. C'est après avoir écrit l'Apocalypse où il y a eu la vision de la femme. Et du coup, il reçoit l'évangile et il donne l'évangile à la terre. Et là, bon, hein, combien de fois on le voit devant Jésus, la bouche de Jésus. Dire femme, il dit femme, honos de Cana, mon heure n'est pas encore venue. Honos de Cana, femme, à la Samaritaine, l'heure est arrivée. Et puis, après, il a, je crois, la troisième fois qu'il dit femme, c'est pas après la Samaritaine, et bien, c'est cette petite femme qui était là, elle est grise dans le sable, ils sont face à face avec elle, et il dit femme, qui va te condamner? Quand va être condamné? Où sont-ils? La condamnation a disparu. La condamnation disparaît. Femme, cette sécheresse. On ne sait pas ce qu'il a dit à la petite Marie au chapitre 12, qui lui versait l'huile d'un parfum parfaitement pur, parfaitement virginal. C'est vrai, ça. C'est pas dit, mais sur la croix, il dit, femme, voilà, Jean, voilà ton fils. Pour rendre possible tout ça, ben, à la résurrection, il dit à Marie-Madeleine, femme. Pourquoi pleures-tu? Mystère de compassion. Et Saint Jean lui reprend les seins comme ça. Il reprend parce que je crois, je suis sûr, je sais. Une perspicacité, il y a une virginité dans ce jeune garçon de 18-19 ans là. Une profondeur inouïe. Une virilité, une jeunesse, une lumière, enfin, un amour, enfin, un visage d'une splendeur dans sa vie intérieure et extérieure. Quand il pénètre comme ça, il pose juste sa tête sur la poitrine de Jésus, comme Saint Jésus l'a avoué à Sainte Gertrude. Il dit à ce moment-là, il a pénétré si profondément en moi, dans les huiles de ma déréliction substantielle, dans mon agonie, qui a accumulé les plus profondes de toutes les tortures de l'enfer éternel. Il a été si profondément. Toucher en moi la joie que j'avais de vivre cette ville de désolation substantielle pour venir sauver le monde. Ici englouti, et ça a ouvert en fond de mon cœur des délices, des délices, des délices. Il a engendré dans le cœur de Jésus, dans le point de sa joie, dans les profondeurs de son cœur, des délices, des délices, des délices, qui ont soulevé le cœur de Jésus et qui ont permis d'engendrer l'Eucharistie et le sacerdoce. C'est pour ça que la cinquième fois, Jésus dit, femme, pourquoi pleures-tu? C'est une révélation, l'évangile, de ce que l'amour a, de sa nature propre, ne peut se déployer que dans la pureté, la chasteté, la virginité, qui sont les trois expressions sur le bâton solide de la croix glorieuse de l'innocence de notre liberté profonde. Et la jeunesse d'aujourd'hui, elle doit être intrépide, comprenant ce que c'est que cet océan, cet univers de la nature humaine se déployant dans elle-même, en son intrépidité, parce qu'elle est virginale. Alors elle est toute puissante. Elle est pure, elle est chaste. Elle ne supporte ni en pensée, ni en profondeur, ni en parole, ni en vision. Ah, on est dans un monde. On est dans un monde, en force contraire, mais la jeunesse virginale de la nature humaine, elle traverse tout ça sans heurter aucune pierre, ni Belzébul. Ah, avec ses pustules comme ça, ses cancers, qui ne va pas d'éclater de tous les côtés. Pour pénétrer en l'humilité de l'homme. Et à se maudire avec sa glu, sa pureté. Il cherche toujours à pénétrer la pureté de la nature humaine, la virginité. Mon vieux père spirituel, il disait, mon père Emmanuel, pourquoi est-ce que. C'est pourtant pas difficile. Parce que tout le monde se débat, j'arrive pas avec moi. Là, j'ai encore des pensées, mais j'ai un attouchement. Vite, par exemple, sur l'innocence, j'ai attiré immédiatement. Mais enfin, quand même, je me bagarre contre ça. La pureté, la chasteté, la virginité. Enfin, c'est pourtant simple. Et si on se bagarre tout le temps, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Il faut retrouver cette nature normale, si je puis dire, de la pureté et de la virginité. La spontanéité, quoi, de la chasteté, ça se trouve dans les profondeurs de nos racines naturelles et surnaturelles, bien sûr, d'accord. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, quand on plonge ses racines dans la terre, le corps humain normal, alors on absorbe toutes les eaux qui coulent comme ça, et qu'on va chercher, ça fait en ce moment, et avec la lune montante, formidable, ces eaux, le printemps, l'aurore du printemps, le monde nouveau, monte dans la sève avec une puissance. Et pour faire éclater tous les bourgeons, fleurs, et s'épanouir ces fleurs aux dents différentes, transformer en fruits, ce fruit, cette vigne en. Cette virginité extraordinaire est une virilité, une puissance, qui fait que tous les oiseaux viennent dans ces arbres, les anges eux-mêmes, ils viennent chanter, quoi, et donner la joie des noces, et le vin est recueilli. Et dans les délices virginale de notre rencontre avec Jésus. Joseph avec Jésus. Dans Marie, Joseph avec Jésus. En Marie. Et l'Immaculée Conception en lui. Devient le sang des noces éternelles. Pas de pureté, pas de virginité, pas de prêtre. Et pareil pour le sacerdoce royal. Dans le monde nouveau, la pureté est totale. Et c'est pas difficile, il suffit de regarder comment ça marche. Si tu regardes que ça marche à la volo, eh bien tu iras à la volo. Eh oui, alors, Asmodée, et les films, et les affiches, et les comportements, et l'éducation, et Freud, et Lacan, et Reich, et tout ça. Regardez comment ça marche. Alors du coup, on y va dans la bulle. Mais regarde comment ça marche. Mais non, c'est un arbre. C'est quand l'amour est là, quand je sais, dès le départ d'ailleurs, dès le premier moment de ton existence, ton oui est chaste. Il est pur, il est virginal et il est sponsal. Et ça, la matière intérieure du corps vivant, la mémoire a dit, elle a ses quatre qualités, ses quatre manifestations. Et effectivement, juridiquement, dès qu'il voit une seule chose, Jésus, une parole, la pluie, une seule goutte d'eau, la rosée dans la verdure, la femme, il ne voit que l'intériorité qui se trouve en elle, une pureté extraordinaire, le cœur de Jésus broyé par l'huile de la croix. Ce miracle de sa survie, qui est la preuve de sa divinité à créer dans la chair. Il suffirait qu'il n'y ait plus cette unité incréée de sa divinité hypostatique dans la chair, pour que le poids de croix qui est en lui le fasse mourir immédiatement, comme dit le Père Chardon, si jamais cette croix, ce poids d'huile, de terre d'élection qui se trouve dans Jésus, par exemple quand il célèbre la messe, l'Eucharistie, s'il fallait le partager, même Jésus petit enfant de 3 ans et demi, le poids de croix qui est en lui, s'il fallait le partager en plusieurs millions d'hommes forts, valides, solides, fortifié par la grâce, ça ferait plusieurs millions de morts dans l'instant. Il faut une virginité comme celle de Johannique pour venir la pénétrer dans son fond et se cueillir et pénétrer la joie qu'il en a de venir nous sauver avec ça, en supprimant le péché, en disant il n'y a plus de condamnation. Femme, pourquoi pleures-tu? Voici ton fils. L'heure est arrivée. Personne ne te condamne. C'est sûr. C'est nécessaire d'avoir un regard sur la sagesse créatrice de Dieu dans la sponsalité. Les jeunes ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'amour, mais ils ont besoin aussi de voir où l'amour se réalise à l'intérieur de la chair et du sang. C'est sûr que l'énergie de la fécondité de l'homme n'est pas faite pour se répandre comme ça en Asmodée. Elle est faite pour se recueillir, ce qu'il disait le Père Manuel. Elle est faite pour se recueillir en elle-même, se bouleverser en elle-même dans la lumière, et de produire la virilité. montée, une sève qui monte jusqu'au ciel, dans la terre de la femme. C'est comme ça, tout est organisé, tout est organisé, tout est organisé dans la création et dans le corps masculin pour faire cette opération lumineuse, virginale, qui fait la virilité. Pas de pureté, pas de chasteté, pas de virilité. Mais si tu dis, non, moi, j'avais jamais pensé ça, moi je pensais que... Non, c'est un recueillement, c'est une mise en branle de toute la matière vivante. C'est le redressement, Jésus se redressa une troisième fois face à la femme. C'est la sève qui monte jusqu'au sang précieux de l'ouverture des portes de la Jérusalem glorieuse qui se trouve devant nous. L'heure est arrivée. La spensalité, c'est pas pour rien que la spensalité se trouve ainsi devant nos yeux pour que la contemplant, la pénétrant, nous laissant pénétrer en nous, elle réalise en nous la nature de l'homme, la nature de l'enfant, la nature de la femme. Souvent on disait, ben oui, tu y arriveras mieux, tu verras, si tu dis le chapelet, si tu te tournes vers Marie. Je dis pas que c'est pas vrai. Mais enfin, on voit que c'est pas toujours vrai, disons. Puisque bon, ça continue, les tentations, les civils là. Mais c'est vrai, aujourd'hui c'est le lundi, c'est la vie purgative. Première, deuxième, troisième demeure. C'est la disparition grâce aux trois demeures de la transformation, la disparition totale de l'impureté, de l'invirginité du cœur et de l'âme dans le mouvement divin en nous. Cette intrépidité de la pureté, de la virginité divine, de la lumière de Dieu incarné. C'est un cheval intrépide qui court comme ça, qui monte vers la Jérusalem d'en haut avec quelqu'un dessus, le Fils de la Lumière. Voilà, et tous les chevaux d'Apocalypse qui sont derrière lui n'ont jamais l'atteindre, ils sont derrière, jamais. La virginité, c'est ce cheval blanc de l'Apocalypse. Qui fait les toutes premières, les quatre premières demeures, les quatre sceaux d'Apocalypse. Et qui est couronné. C'est la nature même de l'homme. C'est la nature même de la femme et de l'enfant. Où est-ce qu'on va le trouver? Où ce surgissement du cheval intrépide de l'Apocalypse de la Jérusalem? Ben on le trouve, on a fini par le comprendre. On la trouve dans sa racine, c'est pour ça que j'ai trouvé terrible cette parole du prophète, disant, mais l'agneau, on va le conduire à l'abattoir. Il suffira de couper de la racine. Ça fait mal d'entendre ça. Couper de la racine. Jésus est lumière. Je suis la lumière. Voilà les cinq femmes. L'heure de ces cinq femmes font éclore pour le monde entier, la Jérusalem dernière. Le je suis Dieu, l'existence de Dieu. Et dans la manifestation de sa pleine lumière, je suis la lumière du monde. Celui qui me sépare dans mes pas. Celui qui me suit à l'intérieur de mon intériorité éternelle et présente et actuelle possède la lumière lui-même que je suis. Pour l'évangile d'aujourd'hui, Parce qu'il vient de dire, c'est de l'heure est venue, il n'y a plus aucune condamnation, puisque tu ne pèses plus. L'Église, Jésus, Marie, le ciel, le Saint-Père, le sacrement, donne vraiment la victoire sur le péché et le rejaillissement. Je suis aimé. Celui qui il est lui-même, le mouvement Adam, lumière qui avance intrépide et virginale. Les ténèbres ne peuvent plus l'atteindre. Qu'on trouve la racine de l'arbre. Dans le fond, des racines qui trempent dans les eaux de la vie créatrice de Dieu, passant par la terre, cherchant partout, et d'en puiser l'innocence dans sa sève. La memoria dei, c'est pas cette coupe originelle. Saint-Joseph, quoi. Et c'est en lui, pourquoi? Parce que, on le sait, on a regardé, comme disait donc mon vieux père Emmanuel, il suffit de regarder comment ça se passe, et ce qui se passe, et c'est en nous. Et il faut simplement y donner, s'y abandonner, et puis le voir dans la lumière. Et du coup, ça se réalise en nous. Très juste. Merci, cher Père Emmanuel. Merci, cher Père Emmanuel. Regardez Saint-Joseph. Regardez comment... Qui est comme Saint-Joseph? Je veux dire, là, qui est comme Dieu? Qui est comme Saint-Joseph? Le premier dans la nature humaine tout entière, depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Le premier. La propagation du pécheur, le premier. À être retourné dans les racines de cette lumière, dont il était immergé, dans les peaux, la paternité, pour y s'abreuver à sa substance même. La première personne à la très sainte Trinité pour traverser cette propagation du péché originel jusqu'à la fin d'une manière virginale, pure, dans une innocence substantielle, absorbant l'heure de la fin de la Jérusalem glorieuse dans le premier instant et faisant de lui une sphère, un soleil igné, embrasé, faisant irruption de tous les côtés pour aller vers la miséricorde, embrasant de toutes les glorifications incréées de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est comme lui? Regarde, plonge-toi en lui comme d'une manière johannique, virginale, et rentre corporellement en lui. Et laisse-toi porter par sa vie. Parce qu'il va faire grandir avec son intrépidité. Le premier, du coup, avec cette véhémence virginale qui a engendré, qui est la cause, qui est le principe d'engendrement de la sensualité. À la fois dans le mouvement incréé de Dieu, le mouvement surnaturellement parfait de l'homme et de la femme. Il a été... Ce n'était pas encore l'heure, alors il revenait sans arrêt à cette sphère ignée, ce soleil brûlant de l'éternelle divine volonté pour aller jusqu'à la miséricorde de l'amour, jusqu'à ce qu'il y ait la lumière entre la miséricorde et l'amour, en Dieu, en lequel il se plongeait continuellement. Et on entend aujourd'hui, je suis la lumière du monde, cette espèce de rassemblement virginal. Et du coup, effectivement, et ça, jusqu'à ce que le cœur apparaisse en lui. Hein. C'est vrai, ces 19 premiers jours, mon Dieu, de Saint-Joseph. Il faut s'y plonger, il faut les regarder, il faut le contempler, il faut s'y engloutir, il faut se laisser transformer. C'est extraordinaire parce qu'ils vont quand même aboutir 153 jours plus tard en lui. À la sanctification du monde. Et 19 ans plus tard, à la l'émanation, dans l'assomption de ce qu'il est, ce soleil substantiel, si je peux dire qu'il est quasi substantiel, cette humilité virginale quasi substantielle, cet ordement de lui, voilà, on pourra prendre en effet. C'est lui qui est l'engendrant de l'Immaculée Conception, son épouse, c'est lui l'époux de cette épouse-là, la femme. Dans ses cinq dimensions, il en est l'époux, il en est la source d'émanation. Voilà la force, la virilité, la pureté, la chasteté, la virginité. Et tu voudrais exiger qu'un prêtre n'y aille pas là? Tu voudrais admettre qu'un prêtre n'a pas reçu cette grâce-là? Oui, il l'a reçue. Il doit s'y former, s'y transformer. Sinon, il ne faut pas qu'il soit prêtre. Il a engendré la virginité incrée de Dieu incarnée dans l'Immaculée Conception. C'est lui, Saint-Joseph, qui a engendré ça. On trouve la chasteté dans le Saint-Joseph. C'est lui qui en est la source première. C'est lui. Et pas seulement quand il a eu la jeunesse intrépide de son engourdissement, sa dormition en Dieu, pour qu'il y ait cette production de cette virginité incarnée de Dieu dans l'Immaculée Conception. Pas seulement là, déjà dans les premiers instants et les premiers mouvements, sa liberté d'innocence virginale, intrépide. Ça a été déjà une virilité, une puissance inouïe. Déjà, il engendrait, et de plus en plus, et de manière toujours grandissante, allant jusqu'aux limites de l'anastase. C'est en lui, vous voyez. Donc, pourquoi? Pour avoir la vertu d'avoir cette qualité normale d'un être humain, homme, femme ou enfant, il faut poser des actes de pureté. Il faut poser des actes de virginité. Il faut poser des actes de contemplation de la sagesse créatrice de Dieu dans la différenciation de l'homme et de la femme, dans ce toucher qui est entre les deux. T'as un toucher divin, t'as un toucher intérieur, t'as un toucher virginal. Il faut le regarder, il faut le toucher, il faut s'y engloutir, il faut s'y laisser transformer, il faut s'y laisser purifier jusqu'à ce que le cheval blanc de l'Apocalypse en jaillisse et que notre nature se retrouve elle-même dans son intrépidité, sa jeunesse. Voilà l'encyclique du pape d'aujourd'hui. Ah oui, c'est beau ça. Alors c'est pour ça. Moi personnellement, je ne vais pas faire de témoignage personnel. Je m'en garderai bien, puisque si mon témoignage, c'est le mien, ben, il n'est pas vrai. Alors, et comme je ne suis pas Dieu le Père. Mais enfin, quand même, j'écoute un autre témoin. Et je l'aime bien, tout le monde l'aime bien d'ailleurs, parce que c'est Saint Padre Pio, c'est quelqu'un, vous savez. Pio, ça veut dire l'amour fou du Fils pour le Père. Pio, la piété. C'est l'amour fou, l'Esprit Saint qui brûle tout. Il y a un amour fou, 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 fou du Fils pour le Père. Le Saint Pio, c'est Pio. Les enfants, par exemple, qui sont sur l'autel, sont dans une innocence, une virginité. Des pieux enfants, hein, qu'on invoque dans la royauté de Dieu, le règne Israël de Dieu. Pour nous accompagner dans l'hôtel des parfums. Des pieux enfants, c'est-à-dire les enfants qui ont vu la vie divine du Fils unique de Dieu Jésus formé en eux dans l'agneau, et pour qu'ils viennent, les pieux enfants, avaient embrasé par l'amour fou du Fils pour le Père. Saint Padre Pio. Ah, j'ai un témoin. Un autre. Ah, là, ça va. Alors, il faisait cette prière. à Saint-Joseph. Tous les jours. Tous les jours. Mais il n'a jamais été effleuré par une tentation contre la chasteté, la virginité, la pureté. Hein. Toujours été dans l'innocence de Saint-Joseph. Très glorieux Saint-Joseph, notre Père, gardien fidèle à qui Dieu confie. Et à chaque fois qu'on fait cette prière, on fait un acte de chasteté. On fait un acte qui fait grandir la vertu de chasteté. On fait un acte qui fait grandir la vertu de pureté. On fait un acte qui fait grandir la vertu, l'esprit de virginité. On fait un acte qui fait grandir la lumière qui écarte toutes les ténèbres. On fait grandir l'arbre de la virilité sponsale. On fait grandir en colmate toutes les braises de la passoire et toute atteinte de la glu. Pour qu'on ait la vertu, il faut poser des actes. Tous les jours, pose donc ton acte. Mets-toi en tant que petit enfant Saint-Joseph et fais la prière. Padre Pio, très gardien fidèle à qui Dieu confie Jésus, l'innocence même. Marie, la Vierge des Vierges, la virginité, toute virginité. Et l'Église immaculée du ciel et de la terre. C'est vrai, ça a été confié à Saint-Joseph dans ces 19 premiers jours de son existence, dans le soleil duquel je me baigne, dans la vie purgative, avec toutes les âmes du purgatoire, avec le purgatoire de la nature humaine tout entière. Voilà, je rentre, là, je fais cet acte, par ce triple dépôt. J'en suis le dépôt. Qui vous est si cher. Faites que pur de toute souillure, chaste de corps, virginale d'intention, de pensée, virginale d'intention, de pensée, d'acte, d'esprit, de chair, de sang, de corps, nous puissions nous relever et vivre dans une humilité toujours plus profonde. Et c'est celle de l'innocence. Hein. Divine originelle, c'est pour ça. Dans une humilité toujours plus profonde, une chasteté toujours plus divine et parfaite, et une obéissance de charité toujours plus brûlante. Vous qui êtes notre Père, le Père du Verbe éternel dans les siècles des siècles. Nous promettons que celui qui fait cette prière de toute sa force, dans Saint-Joseph, l'accueillant, en les sept sceaux des secrets, joanniques de l'Apocalypse dans le monde nouveau, s'il est encore vaincu, ne serait-ce que par un mouvement contraire, qu'il nous écrive, il nous intéresse. Vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas échapper à Sodome. On est sur la terre, on ne peut pas échapper à Gog et Magog, à Gogol et Magog, avec tout ce qu'il y a là-dedans. Bon, on ne peut pas échapper. Comment ça, tu ne peux pas échapper? Comment ça, tu ne peux pas échapper? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Qui nous écrivent? Ils nous intéressent. Ah, c'est injuste, c'est quand même trop dur. C'est qui est injuste? Nous y associons aussi un deuxième témoin, c'est Saint Maximilien Kolb, qui était tellement éperdu de l'Immaculée Conception, dans l'union hypostatique des cieux de Jésus, quoi, tellement. Là, ce jeune-là, qui est rentré chez lui, chez Capucin franciscain, là, en Pologne, et il a emporté avec lui, je sais pas, 5 000-7 000 vocations, quoi, pour parler de l'Immaculée Conception. À lui tout seul, il était tout jeune. Hitler n'a pas supporté. Hein. Moloch n'a pas supporté. Hein. Asmodée, Moloch et Belzébuth n'ont pas supporté ce gars. Fou crématoire. Alors Et là, une prière extraordinaire. J'ai envie de l'écrire. J'ai envie de l'écrire, cette prière, en l'associant à celle de cet autre capucin, Padre Pio, quoi. En faisant les deux, moi-même, c'est ce que je fais, je l'avoue. J'avoue que je m'inscris dans la conjonction de ces deux prières, cette consécration. Je me consacre à Saint-Joseph. Je me consacre à l'Immaculée Conception. C'est belle, cette prière. Nous nous consacrons totalement à toi. Nous voudrions être emportés en toi. Demeurer en toi, disparaître en toi. Être changé. Accepte notre être tout entier, agissant nous sur la divine et éternelle volonté. Dans notre âme, dans notre corps, dans notre vie, dans notre chair, dans notre sang, dans notre mort, dans notre éternité, pour la plus grande gloire de Dieu, nous voulons. Et là, il y a Sainte Thérèse qui arrive. À chaque battement de notre cœur, vous renouvelez cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, nous puissions vous redire notre amour dans le face-à-face éternel de Dieu. Ah, c'est une consécration, c'est pas simplement une prière, une consécration où on s'engloutit à l'intérieur de Saint-Joseph. Dans la première fois où la nature humaine s'est exprimée avec cette huile vivante, parfumée du nard du chapitre 12, où Saint Jean n'a pas osé, par respect, se faire sortir là de la bouche de Jésus le mot femme. Parce que c'est Saint-Joseph qui est caché derrière, comme l'explique le Saint-Père, le pape François. Comme source de la Jérusalem dernière et de l'Église immaculée du ciel et de la terre. Du ciel, de la terre et de la terre et du ciel. C'est le dépôt qui tend à lui. Et bien moi je m'engloutis dans ce dépôt et mon corps à l'intérieur de lui-même, en tous ces mouvements, se laisse illuminer et vivre. Alors à ce moment-là, je peux entendre en lui. Alors je peux entendre que je fais partie de la Sainte Famille. Je suis certain. J'ai un cri à proclamer aujourd'hui. Je suis certain que si on ne s'engloutit pas dans la Sainte Famille, en Saint-Joseph, on ne pourra pas rentrer dans le monde nouveau. On ne pourra pas y demeurer, on ne pourra pas y grandir. On ne pourra pas donner à la nature humaine tout entière de s'épanouir. Chaque être humain, tous, et personnellement, et dans la chair et le sang, on ne pourra pas faire apparaître devant la face de Dieu cette virginité de la Jérusalem. De la Jérusalem qui vient, l'heure est arrivée. Joseph prend l'enfant et la mère et descend. Avec nous. Dans le centre précieux de Jésus, Marie, Joseph. Et voilà, jusqu'à ce que la coupe soit débordante. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Et l'Église est bonne, vous savez, avec nous, parce que en même temps que cette sixaine extraordinaire de la femme. Et dans Saint Jean qui nous donne cette semaine, ça fait 8 à 12. En même temps, il nous donne le prophète Daniel. Dans les premières lectures, vous verrez, c'est pour le Daniel. Daniel à la fournaise. Daniel, enfant. Aujourd'hui. Et comme pour nous diriger, nous concentrer, nous, dans cette montée vers le Saint des Saints, de la paternité réelle, incarnée, de Dieu, pour s'y engloutir. C'est Daniel qui nous désigne à la fois l'heure et à la fois le lieu, comme dit Jésus. Du Saint-Destin, la paternité, pour le jaillissement de l'innocence, de la dernière Jérusalem glorieuse, qui va ouvrir ses portes pour que le terme terminant des processions sacrées de Dieu en nous puisse y pénétrer et se conjoindre à l'éternité sacrée, la responsabilité sacrée de Dieu en lui-même. Et cette rencontre prodigieuse sera la glorification de toutes les gloires glorifiantes de Dieu. Et l'Église est bonne, elle nous donne Daniel. On dit, oui, la paternité, cette semaine-là, elle attire encore notre attention vers le prophète Daniel. C'est quelque chose de trois fois. Personnellement, je le vois trois fois, ça. Je vois que quand Jésus était enfant et qu'il s'est retrouvé dans le temple pendant trois jours, qu'il faisait sa bar mitzvah, et ben, c'est, il parlait avec les. Il y avait Gamaliel, il y avait sans doute Nicodème, mais je sais pas. Mais sûrement Hillel. Il parlait du prophète Daniel. Il parlait de l'heure. Il parlait du lieu. Il parlait de l'agneau. À travers le prophète Daniel. C'est les questions qu'il leur posait. C'est ça. C'est pas notre sujet. Et notre foi là, il est dans le temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a marqué sur le sable, à votre avis? Qu'est-ce qu'il a marqué? Deux fois sur le sable. Devant la femme, devant, ils sont partis les uns après les autres. Et puis deux fois dans l'évangile, il dit, attends, vous voulez savoir où est la Jérusalem de la fin? Le lieu de la Jérusalem de la fin? L'heure de la Jérusalem de la fin? Lisez le prophète Daniel. Et contemplez, pénétrez dedans et voyez ce qui est dit. Le Saint des Saints va s'ouvrir pour accueillir tous les enfants du monde nouveau. Le Saint des Saints réservé aux saints. Et en premier, à Saint Joseph qui est le premier à le remplir quasi substantiellement. Et tous ceux qui ont rejoint le Saint-Joseph vont remplir le Saint-Dessin. Et là, c'est dans l'Évangile. Et l'Église le donne une quatrième fois, là. Cette semaine. On peut pas dire que tout ne conduit pas là, hein. Parce que s'il y a des mecs qui n'ont toujours pas compris, c'est un refrain que je prends en ce moment parce que quelqu'un qui suit la retraite qui me dit après chaque c'est moi qui me dis voilà, c'est cette expression là qui sort, c'est la réponse de l'ange qui écoute. Voilà, c'est des mecs qui n'ont toujours pas compris, mais enfin. Ça. Mais tout en train de crier, gémir, tout, l'agonie, tout, cette vie de réaction, jusqu'à ce que se répande là, dans la mer et à l'ouest, tout. La nature elle-même, vous savez, il y a les trompettes qui grondent, ces trompettes qui sonnent en ce moment-là, dans le ciel, ces trompettes qui sont en même temps un gémissement et un signal et un emportement du diaphane céleste, du diaphane et puis dans le fond de la mer, des océans, dans le fond des océans, il y a des gens qui aperçoivent un son, un gémissement sourd dans le fond des océans, comme si toute la faune, la flore du fond de l'océan criait en gémissant. Il y a un son bizarre dans le fond des océans en ce moment. Là est arrivé, pour la révélation des fils de Dieu, je suis la lumière du monde. Celui qui me sépare, mais pas celui qui me suit. Il n'y a plus aucune ténèbre en lui. Il se suit, les pas de Jésus. Ils ne vont pas au moment de l'heure de la mort, de cette croix glorieuse, du signe, du cri, du gémissement du Fils de l'homme, devenu sourd, dans les magasins de Saint-Jean pour rentrer. Dans la paternité ouverte de l'innocence de Saint-Joseph, qui est le récepteur de cette lumière, dégageant toute ténèbre à jamais en lui, pour lui apporter le fruit de cette virginité, de son innocence principielle, pour que la nature humaine tout entière puisse pénétrer par l'âme dans la lumière de gloire de la vision béatifique. Ce n'est pas de la lumière, ni de la lumière. C'est bien clair que l'Église a toujours dit dans sa liturgie que la croix glorieuse, c'est le monde angélique de lumière qui porte et diffuse la lumière à l'infini, sans limite et sans fin partout. À partir de cet instant-là, dans le sacerdoce, qui se recueille, Saint-Joseph, notre Père. Alors, quand on vient avec les enfants, de manière virginale, de sens surnaturel, divinement formé par la lumière de Dieu, donnant ce cri de lumière, les ténèbres ont disparu, oui. Dans cette nature humaine qui fait que désormais, on ne descend plus, mais on monte. On monte vers Pâques. On monte comme ça, comme la sève. L'aurore de la résurrection. On monte des eaux fluviales magnifiques, surabondantes. En Jésus-Marie, Joseph, vers le sang. Dans la sève de l'arbre de la vie. Qui est le déploiement de l'innocence. Cette semaine qui fait que, étant descendu, il est inventé au ciel s'il est descendu, hein, grâce à Saint-Joseph, hein, je réserve un nouvel monde désormais, comme un parfum magnifique, et diffuse la lumière de la personne divine, poussée, jusqu'à sa manifestation à l'intérieur du monde agréé de Dieu, absorbant les portes, par les portes ouvertes de la Jérusalem glorieuse, où nous passons par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui la lumière du monde, celui qui qui aussi ne marche plus dans les ténèbres. Il possède la lumière de la vie éternelle. Et tout cela, on doit le faire, bien sûr, avec Saint-Joseph, et de Saint-Joseph, comme lui, il le fait comme ça, avec la nature humaine tout entière. Avec la nature humaine tout entière. La virginité, la pureté fait partie substantielle de la nature humaine tout entière. Amen.